Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Être esclave dans les mondes musulmans. Les avancées de la recherche historique permettent de porter un nouveau regard sur cet objet, longtemps présenté et souvent à dessein comme méconnu. Et pourtant, c'est une tempête de références culturelles qui surgit à notre esprit dès qu'il est question des hommes et des femmes asservis dans les mondes musulmans avec des harems, des eunuques, des odalisques, des mamelouks et des janissaires aussi, des caravanes et des marchés aux esclaves. Les multiples formes de l'asservissement.
Le pauvre Bilal, que je me suis offert avec mon argent, est mon égal. Je me suis offert ta dignité d'homme, Bilal, le jour où je t'ai acheté.
Ne me dites pas que c'est vous, mon nouveau maître.
J'en ai pas les moyens. Je ne suis que commerçant.
Si tu es assez humain pour avoir des dieux, toi aussi, n'oublie pas, ce sont les dieux de celui qui te possède.
Vers le sud, Burton. Suivez les anciennes routes des esclaves, elles seront peut-être plus sûres. Dans ces solitudes désertiques, vous ne trouverez que les terrifiants caprices d'Allah.
Les terrifiants caprices d'Allah. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux ces différentes formes d'asservissement dans les mondes musulmans. Bonjour Jamila Wahou.
Bonjour.
J'ai essayé de le prononcer à la berbère. Hein.
Ça va, ça
c'est
va.
Pas mal. Oui, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Bonjour Inès Mrad Dali.
Bonjour.
Et avec nous également aujourd'hui, Mohamed Waldi. Bonjour.
Bonjour.
Et tous les trois, vous allez essayer de nous expliquer, de nous faire comprendre ce qui a longtemps été présenté, je le disais pour ouvrir cette émission, comme méconnu, comme quelque chose en marge. D'ailleurs, Mohamed Waldi, dans votre ouvrage « L'esclavage dans les mondes musulmans », l'introduction porte ce titre qu'il s'agit d'un sujet tabou. Est-ce un sujet tabou? Avec un point d'interrogation, écrivez-vous.
Oui, oui, c'est le point d'interrogation qui compte en fait, parce que il est souvent dit que cette question suscite des tabous, des silences, et ça c'est pas faux, il y a des actes de censure que j'évoque dans le livre, mais je montre aussi que c'est pas un silence complet, au contraire. En fait, il y a beaucoup de romans en arabe, en turc, en persan, en langue occidentale évidemment, sur l'esclavage, et surtout des romans très récents depuis les années 2000 avec des héros et des héroïnes esclaves noirs. Donc, c'est pas un silence complet. Et ça, il faut bien le dire. Et puis, par ailleurs, il y a des travaux académiques dans les mondes musulmans sur l'esclavage. Ce que je dis aussi, ce qui manque, c'est une série télé grand public, un film grand public dans les langues de la région, en arabe, dans les langues ouest-africaines, en persan, en turc, qui mettrait en avant un héros ou une héroïne, femme ou homme, esclave noir. C'est ce qui manquerait pour faire comprendre aux gens ce qu'a été l'esclavage.
Oui, avec un regard peut-être autre que celui porté par les Européens, ce qui est souvent le cas, et là aussi je le disais, tant et tant de représentations, souvent culturelles. Jamila Wahou, par rapport à tout ce qui a été dit sur ces sujets tabous, vous êtes doctorante en histoire médiévale à Aix-Marseille Université. Vous travaillez sur l'esclavage, enfin les esclaves et les affranchis, dans les discours et pratiques juridiques du Proche-Orient islamique à l'époque mamelouk. Votre directeur de thèse,
Julien Loiseau.
Avec ce travail sur les mamelouks, vous avez un regard aussi sur les échos contemporains, bien sûr, sur l'esclavage. C'est vrai qu'il y a cette idée de tabou, c'est un sujet qu'on ne veut pas évoquer, alors que non, on le voit bien, la recherche historique s'intéresse à cet objet.
Oui, alors la recherche s'y intéresse, mais en réalité, quand on commence à étudier les sources, on trouve des esclaves partout. Ils sont racontés partout, ils sont racontés dans les chroniques, ils sont racontés dans les actes notariés que je peux étudier, ils sont racontés dans les fameuses fatawas également, les actes de jurisconsulte, ils sont partout. Peut-être que en comprenant un peu comment l'esclavage était distillé et à quel point il était présent dans ces sociétés, bah finalement tout ça fait sens aussi.
Oui, c'est ça, hein. C'est vraiment juste de la compréhension sur une temporalité qui est importante. Hein. Quand on réfléchit à cette histoire-là, nous sommes sur une histoire quasi millénaire, en tout cas de plusieurs siècles, et ce moment de la fin aussi de l'esclavage. Inès Frandali, vous travaillez, je prends le titre de votre thèse, « Identité multiple et multitude d'histoires, les Noirs tunisiens de 1846 à aujourd'hui ». Pourquoi 1846 ?
1846 correspond à la date de ce qu'on appelle le décret d'abolition d'esclavage des Noirs en Tunisie. Et on en reparlera, je pense. Ça renvoie à une période de l'histoire tunisienne qui révèle un véritable intérêt, une véritable sensibilité à tout un mouvement abolitionniste donc du 19e siècle qui était extrêmement présent et fort, voilà, à l'échelle mondiale.
Avec une thèse soutenue sous la direction de...
De Madame Jocelyne Dacliard, voilà.
Avec cette réflexion qu'on pourrait avoir, Mohamed Waldi, par rapport au titre alors, que nous avons donné à l'émission Le cours de l'histoire aujourd'hui, au titre de votre ouvrage « L'esclavage dans les mondes musulmans », c'est d'associer ce mot « esclavage » à « musulman », c'est-à-dire à la religion. C'est vrai qu'on n'a pas l'idée, quand on parle de la traite transatlantique, de dire une traite protestante ou chrétienne ou catholique, peu importe. Quelle réflexion aujourd'hui, dans le champ de l'histoire, sur l'utilisation de ce monde musulman ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Et en fait, là, il y a deux choses. D'un côté, bon, on comprend pourquoi on a utilisé la notion d'esclavage dans le monde musulman. Parce que les normes, et on va y revenir, c'est-à-dire le droit, toutes les normes qui concernent plusieurs aspects de la vie, de ces sociétés, mais notamment l'esclavage, sont liées à une même matrice, à des mêmes textes, c'est-à-dire d'un côté le Coran, on y reviendra, et de l'autre côté les hadiths, les paroles et les faits, enfin les gestes attribués au prophète Mohammed. Ça a du coup couvert toute une région très vaste, donc les mêmes normes se sont appliquées du Maroc jusqu'au sous-continent indien. Le problème, c'est que même si ce sont les mêmes normes, évidemment, elles ne sont pas appliquées de la même manière partout, y compris sur la question de l'esclavage. Et puis, il y a des coutumes locales qui s'appliquent aussi à l'esclavage, qui varient selon les régions. Donc, la notion de monde musulman, elle est utile, mais elle ne peut pas aussi être la clé de compréhension de ce qui se passe partout dans ces régions, et surtout sur une période très longue, je veux dire, de la révélation prophétique, jusque au 19e et jusqu'au temps des abolitions, donc 19e, début 20e en fait. Donc il faut être très très prudent quand on dit ça. Et moi, je remets surtout en cause la notion, par exemple, de traite islamique. C'est-à-dire, ou de traite orientale, c'est-à-dire de mettre sous la même dénomination des traites qui étaient très très différentes dans les mondes musulmans. Je veux dire, il y avait la traite transsaharienne, à partir donc du Sahara vers le nord de l'Afrique, des traites en Méditerranée aussi, qui concernaient les Européens, et puis aussi les Maghrébins, des traites dans le Caucase, des traites dans l'Asie centrale. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, c'est une région où il y a plusieurs formes d'esclavage, des esclavages d'origine très très différente. Et là, je le dis pour aussi que les auditeurs qui n'ont pas des notions importantes sur ce type d'esclavage comprennent qu'en fait, c'est pas l'esclavage comme dans les Amériques, hein. C'est pas des esclaves noirs versus des maîtres blancs. Il y a des esclaves noirs dans les mondes musulmans, c'est très important, mais il y a aussi des esclaves d'origine européenne, des esclaves d'origine caucasienne, des musulmans qui sont eux-mêmes asservis au sein des mondes musulmans. Donc c'est un monde très divers, presque cosmopolite, comme ça l'était dans la Méditerranée antique. Et ça, c'est le dernier point que je voudrais souligner. L'esclavage dans les mondes musulmans est l'héritier pratique dans les mondes antiques. Hein. On retrouve les mêmes formes que dans le monde romain ou que dans le monde grec jusqu'au 19e siècle. Et même dans l'Europe médiévale et moderne, notamment dans l'Europe méditerranéenne, on a des formes d'esclavage qui sont comparables à ceux qui existaient dans les mondes musulmans.
Jamila Wahoud, ça c'est vraiment un point à relever parce que dans le cas qui nous intéresse, l'esclavage dans les mondes musulmans, nous sommes dans une continuité de l'antiquité gréco-romaine et au même moment en Europe, il y a des phénomènes qui peuvent s'apparenter à l'esclavage. C'est aussi important toujours dans cette réflexion historiographique, pour utiliser un mot compliqué, mais pour dire les choses de manière très simple, c'est simplement dire nous sommes sur un phénomène historique qui s'inscrit dans une histoire qui touche l'ensemble sur le temps long et géographiquement de nos cultures, alors méditerranéennes et au-delà.
Oui, tout à fait. Alors, bien sûr que la comparaison est nécessaire. Il faut comprendre d'où on part et d'où on vient pour pouvoir étudier un phénomène. Alors, l'esclavage était présent dans les sociétés antiques et même pré-islamiques de la péninsule arabique. Et en fait, on se rend compte avec le développement de l'islam, bon, l'islam, la civilisation qu'elle a été, comme ça vient d'être dit, sur un espace géographique très large, il s'est passé... Si vous voulez, en fait, l'islam est venu, en quelque sorte, légiférer. Le Coran a légiféré l'esclavage dans le sens où il reconnaît cette pratique. Donc dans le Coran, on a quelques éléments comme ça qui viennent reconnaître cette pratique. Et puis on a plusieurs éléments qui nous font comprendre un peu quels sont les droits et les devoirs et surtout les différences avec les sociétés antiques qu'on connaissait jusqu'à présent. Et l'idée, c'est de voir aussi, de comprendre comment ça a évolué avec le premier message originel, donc celui du Coran, avec la tradition. Et puis ensuite, moi j'ai tendance à dire qu'il y a eu une autre période que l'on peut considérer qui est celle des quatre premiers califes, qui ont été un peu dans cette continuité, parce qu'on ne pouvait plus asservir des esclaves. En tout cas, un homme libre musulman ne pouvait plus devenir esclave. Et puis ensuite, il y a eu la période des grandes expansions. Et puis là, on va pouvoir effectivement parler de traite, comme ça a très bien été fait par Monsieur Waldi, des grandes expansions où là, il a fallu, d'un point de vue économique, il a fallu intégrer, importer de la manœuvre humaine, de la marchandise humaine.
Mais déjà, le fait de dire que ce n'est pas le Coran qui instaure l'esclavage, mais que c'est une pratique ancienne et que les textes sacrés viennent corroborer des pratiques qui existent déjà, qui valident les usages, simplement une reconnaissance et de ce qui se
d'une
fait à côté,
réalité, finalement.
C'est déjà très important. Sourate.
Dieu ne vous punira pas pour des serments faits à la légère. Mais il vous punira pour les serments prononcés délibérément. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres ou d'affranchir un esclave. N'épousez pas de femme polythéiste avant qu'elle croie. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre et polythéiste, même si celle-ci vous plaît. Ne mariez pas vos filles à des polythéistes avant qu'ils croient. Un esclave croyant vaut mieux qu'un homme libre et polythéiste, même si celui-ci vous plaît.
Une sourate du Coran. Mohamed Waldi, ici, bien sûr, toute la réflexion se pose sur le fait de légitimer des pratiques qui existaient déjà. Et surtout, et c'est vraiment ça qui est pertinent, c'est l'espace géographique que couvre le monde musulman qui fait qu'il y a une uniformisation. Alors, non pas des pratiques, bien sûr, et vous l'avez dit, beaucoup de diversité, mais en tout cas, peut-être des textes références sur lesquels tout le monde peut s'appuyer.
Oui, je pense que en fait, dans cette question des normes qui a beaucoup intéressé les historiens, mais aussi les juristes, comme ma collègue le disait, le Coran c'est fondamental. On y revient constamment, mais en même temps, le Coran ne dit pas tout. Donc, au Coran est ajouté pour tous les termes, y compris l'esclavage, donc des références ensuite à ce qu'a dit, à ce qu'a pu dire le prophète, à ce qu'il a pu faire de son vivant. Selon ceux qui l'ont vu, selon ceux qui l'ont entouré. Mais il y a une troisième couche juridique qu'il faut jamais oublier pour, en plus du Coran et de ses traditions du prophète, il y a aussi les cas qui sont soumis aux juristes musulmans. Donc ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire des cas concrets qui posent des questions juridiques que le Coran ou les hadiths, la tradition du prophète ne tranchent pas. Et donc cette jurisprudence aussi, il faut la voir sur plusieurs siècles. Et ça, c'est très très important parce que par exemple, sur un cas très spécifique, que fait-on de la mère esclave d'un enfant libre ? Est-ce qu'elle doit rester esclave ? Quand est-ce qu'elle doit être affranchie ? Et là, il y a aussi des débats. Donc, il faut bien s'imaginer un monde qui discute constamment sur ces questions-là. Et en plus, ces questions juridiques, elles sont, il faut rajouter donc une quatrième couche, donc au Coran, aux traditions du prophète, à la jurisprudence. Il faut bien savoir que dans certaines régions, il y a aussi des coutumes, des pratiques sociales spécifiques sur plusieurs questions, dont encore l'esclavage. Par exemple, moi je cite souvent ce cas, mais dans l'Empire ottoman et dans le centre de l'Empire ottoman, c'est-à-dire dans l'Anatolie, ce qui correspond aujourd'hui à la Turquie, la tradition qui s'est peu à peu imposée localement, c'est d'affranchir les esclaves au bout de 10-15 ans. Donc quand vous avez tout ça à l'esprit, vous voyez qu'en fait, le monde musulman, ou les mondes musulmans, comme je l'appelle dans le titre du livre, c'est aussi plusieurs pratiques de l'esclavage, mais qui reviennent, c'est vrai, toujours aux mêmes normes aussi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on trouve des formes, des types d'esclavage qui sont communs à ces mondes-là.
Inès Mraddali, vous avez travaillé, vous, spécifiquement sur la Tunisie et plutôt sur la période qui termine notre propos, celle des abolitions. Il y a une spécificité de l'esclavage en Tunisie. Est-ce que, quand on regarde cette longue histoire, c'est pas la même chose d'être esclave en Tunisie, une partie de ces mondes musulmans, qu'ailleurs, et c'est vaste, parce que vraiment, on peut aller jusqu'en Arabie, descendre de plus en plus au sud, en Afrique.
Probablement qu'on peut dire que l'esclavage en Tunisie a principalement concerné ou a particulièrement été un esclavage domestique.
C'est-à-dire, c'est pas dans les mines, c'est pas dans les champs, au sens plantation, etc.
Absolument. Donc, en général, cela renvoie à une fonction, c'est un esclavage assez polyvalent, donc où l'on est censé servir une maisonnée et ses gens. Donc, cela donne l'impression ou l'idée qu'il s'agit d'un esclavage plus clément que celui qui pouvait être pratiqué dans les Amériques. Il y a évidemment, et je pense que Mohamed en parlera mieux que moi, l'esclavage privilégié, ces esclaves de cour, donc qui avaient des spécificités comme le fait de pouvoir aspirer à la propriété, etc. Et il y avait aussi un esclavage administratif et militaire qui peut-être rapproché de cet esclavage de cour et de privilégiés.
Ouais, c'est vraiment cette diversité qui nous trouble à chaque fois au moment d'étudier. D'ailleurs, je vous dis cet objet historique, l'esclavage dans les mondes musulmans. Mohamed Ouelddi, vous êtes professeur à Sciences Po Paris et dans cet ouvrage que vous publiez aux éditions Amsterdam, on le ressent. C'est incomparable entre ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire l'esclavage domestique, qui correspond à un travail de boniche tel qu'on peut le voir en Europe, et puis l'esclave de la cour qui peut atteindre les plus hautes fonctions. C'est cette diversité aussi qu'il faut étudier.
Oui, cette diversité, et en même temps, l'esclavage domestique et l'esclavage de gouvernement, ou l'esclavage militaire, ou l'esclavage privilégié, comme le disait Inès Maraddelli, c'est très lié. En fait, il faut bien revenir à ce que c'est qu'une maison ou une maisonnée à l'époque dans les mondes musulmans, mais aussi dans les mondes antiques. C'est là qu'on produit des ressources. On produit des nouveaux êtres, c'est-à-dire des bébés. On produit aussi de l'économie, des grandes maisons tenues par des souverains, par des gouverneurs. Ben, elles collectent l'impôt, elles s'enrichissent par l'impôt. Et pour enrichir une maison, il faut faire venir des esclaves. Donc là, je ne justifie pas l'esclavage, mais je montre pourquoi l'esclavage domestique était important. Parce que, en fait, un domestique, il sert évidemment aux tâches quotidiennes, comme vous l'avez dit, en tant que domestique lui-même, en tant que serviteur. Mais le domestique, c'est pas que ça, hein, ou l'esclave, c'est pas que ça du tout. Dans une même maisonnée, dans une maisonnée très puissante, par exemple au 18e, 19e siècle, avec des gens qui sont acquis de très loin, y compris des eunuques qui coûtent très très cher, chacun a une fonction. Et les fonctions de ces esclaves, c'est de s'allier et de s'unir et d'avoir des enfants avec les gens libres de la maisonnée. Et il faut comprendre pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça parce que si vous mariez quelqu'un de libre dans la famille avec un esclave ou une esclave, vous n'avez pas besoin de vous allier avec d'autres maisons. Vous n'avez pas besoin d'avoir une belle famille, par exemple. Donc ça, c'est une structure très, très, très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, cet esclavage domestique a nourri plusieurs formes d'esclavage. C'est-à-dire que l'esclave domestique, prenons un cas très, très concret pour que les gens comprennent, vous êtes gouverneur de la province ottomane de Tunis et vous avez besoin de nouveaux serviteurs. Vous faites acheter des jeunes garçons et des jeunes filles dans les marchés d'Istanbul et d'Izmir au centre de l'Empire ottoman. Vous les faites venir dans l'enfance. Vous leur apprenez l'arabe, qui est la langue la plus pratiquée dans la province ottomane de Tunis. Vous les éduquez pour qu'ils deviennent des serviteurs, soit des concubines dans la maison, qui vont s'allier avec qui vont être forcés d'avoir des enfants avec des hommes libres, soit ce qu'on va appeler, on reviendra avec Jamila Wahou sur ce cas-là, vous allez former des mamelouks, c'est-à-dire des jeunes enfants qui vont ensuite devenir des esclaves avec des fonctions gouvernementales. Donc, vous voyez à quel point l'esclavage domestique peut être ensuite devenir un esclavage de gouvernement. Mais les mêmes esclaves, comme le disait très bien Inès Maraddelli, ont des fonctions très différentes. Certains peuvent être envoyés au champ pour cultiver des terres proches des villes et proches des maisonnées auxquelles ces esclaves appartiennent. Donc, c'est ça qui est très, très important et c'est ça que les auditeurs doivent comprendre, en fait. Eux, leur imaginaire, très souvent, est l'imaginaire de l'esclavage états-unien, parce que cet esclavage états-unien était montré dans les films, dans les séries. Mais l'esclavage méditerranéen et musulman, qu'on rencontre aussi en Italie, à Malte, en Espagne, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est un esclavage qui se fait à partir de la maison, mais qui peut avoir différentes formes et en fonction des charges et des tâches que l'on va donner aux esclaves.
Inès Moradali, c'est vrai que quand on entend cette description de l'esclavage, alors en l'occurrence, en plus, l'exemple était tunisien, c'est ce que vous étudiez particulièrement, on n'imagine pas, en fait, ici, avec ces alliances possibles dans l'idée de ne pas avoir à s'allier une autre famille, comment c'est constitutif du fonctionnement d'une société.
Absolument, c'est constitutif. Et puis, justement, je voulais revenir sur ce que j'avais dit sur l'aspect polyvalent de la fonction de l'esclave domestique. Et comme l'a dit, justement, comme l'a précisé à la suite Mohamed, l'esclave domestique, surtout dans le monde rural, donc servait la maison du maître, mais en même temps, il travaillait dans les champs, dans les jardins du propriétaire. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être plus tard, ce qui fait la première décision abolitionniste en 1841 par Ahmed Bey va consister à interdire l'exportation des esclaves. Et très tôt, il a été question d'interdire totalement l'esclavage. Mais ce qui va faire qu'Ahmed Bey va retarder cette décision jusqu'en 1846, c'est que justement, il craignait le désaccord, la colère des propriétaires, des petits propriétaires terriens qui, visiblement, donc, avait clairement recours donc à ces esclaves domestiques dans le travail des jardins et des champs. Et donc c'est ce qui montre qu'en fait que cet esclavage était assez fondamental dans la structure socio-économique de la société, non pas dans la peut-être pour l'économie de l'État, puisqu'il va très facilement ou assez rapidement en tout cas décider de la fermeture des marchés d'esclaves et donc renoncer aux taxes que pouvait percevoir l'État de ces ventes d'esclaves.
Avec, c'est vrai, une question liée au pouvoir, hein. C'est évident ici sur le lien qu'il peut y avoir entre l'économie et l'esclavage. Et dans ce lien-là, il y a la question particulière des mamelouks. Ces mamelouks-là, c'est ce que vous avez étudié, hein, Jamela Ouarou. C'est quoi ces mamelouks? Vous pouvez nous les décrire?
Alors moi j'étudie pas particulièrement les mamelouks, mais je travaille sur les esclaves plutôt ordinaires, entre guillemets, dans cette société-là, dans ces sociétés mamelouks. Alors, mamelouk, ça vient du terme arabe mamelouk, qui est le même, et qui veut dire la chose possédée. Donc, si on veut, un peu comme ça a été dit, un peu en pointillé depuis tout à l'heure, effectivement, depuis l'époque abbasside, l'État, alors comprendre l'État central à l'époque abbasside et puis ensuite décentralisé, l'État a commencé à recruter et à former des enfants pour qu'ils deviennent des esclaves soldats qui puissent assurer une meilleure protection au sein des cours. Et c'est une pratique qui s'est poursuivie ensuite. Donc là, on est à l'époque abbasside, au 8e siècle. Et c'est une pratique qui s'est poursuivie aussi à l'époque ayoubide, qui a précédé l'époque mamelouk. Donc l'époque mamelouk, on est au 13, 15, 16e siècle. Et disons que ces esclaves soldats qui étaient formés aux arts de la guerre et militaires étaient voués, donc étaient éduqués dans des maisons mamelouks, des maisons spécifiques qui leur étaient dédiées. Ils étaient voués à devenir un peu, disons, sont devenus un peu les grands généraux des princes ayoubides. Et c'est un tournant de l'histoire. Et on va dire notamment deux grandes batailles qui ont permis leur avènement au pouvoir. Et là, on peut citer la bataille de la Mansoura avec notre fameux Louis IX et la bataille de, ce qui n'était pas tout à fait une bataille, mais la prise de Bagdad par les Mongols qui s'est fait en 1258, si je ne me trompe, qui a mis à feu et à sang Bagdad. Donc en fait, si vous voulez, on a des pressions extérieures qui se resserrent sur cette demeure de l'islam, le Dar al-Islam, donc ces pays musulmans. On a une pression extérieure très forte qui se resserre et ce sont les mamelouks, ces grands généraux, anciens esclaves, serviteurs des princes ayoubides, qui ont réussi à défendre ces attaques et finalement à sécuriser ce Proche-Orient qu'on connaît aujourd'hui, donc essentiellement l'Égypte et la Syrie. Et donc ils sont devenus sultans, ils sont devenus eux-mêmes princes de ses propres espaces, et c'est pour ça aussi que ça rend l'étude de ce pouvoir fascinant, parce que c'était des enfants qui ont été importés, des enfants étrangers qui ont été importés volontairement en Égypte et en Syrie, et finalement dont le sort s'est complètement inversé.
Avec, et vous avez raison de le souligner, ces échos qu'il y a dans une histoire beaucoup plus large avec la bataille de Mansoura 1250, Saint-Louis, Louis IX, et puis des échos aussi beaucoup plus tardifs avec ces mamelouks que croise Napoléon Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle quand il se rend en Égypte. C'est vraiment pour dire combien ces mamelouks font partie de notre imaginaire.
Les mamelouks évoquent, pour ceux qui ont un peu entendu parler de l'histoire du Moyen-Âge, une période très étrange où ce sont des esclaves qui étaient des maîtres, des gens qu'on achetait sur le marché, des espèces de chevaliers en puissance, si je puis dire, car à peine achetés pour leur qualité physique sur des marchés lointains du côté de la Caspienne, dans le pays qui était soumis à ce moment-là à la Horde d'or. On les amenait dans des casernes sélectionnées, privilégiées, au Caire, et très vite, c'était parmi eux que le souverain se choisissait non seulement ses grands capitaines, mais généralement son successeur.
Nous étions en 1950 quand s'exprimait Louis Massignon, islamologue, qui a un destin extraordinaire lui-même pour essayer de comprendre ce monde-là, avec Mohamed Waldi, tout un univers, et on l'évoque ici, autour de l'esclavage, dans le cas des Mamelouks, ces enfants devenus soldats, mais qui deviennent par la suite sultans.
Oui, alors ce qu'on appelait le phénomène Mamelouk, il est quand même prodigieux, parce qu'il traverse toute l'histoire islamique, des débuts des Romayyades Abbasides, donc des premiers califats importants, jusqu'au 19e siècle. Moi, j'ai étudié l'un des derniers mamelouks, c'est-à-dire dans les années 1880. Donc, un millénaire, quand même, c'est très, très impressionnant, d'enfants qui ont été formés pour accéder à des fonctions de gouvernement, donc des esclaves qui deviennent des gouvernants. C'est ça qui est prodigieux. Mais quand on parle de ce phénomène mamelouk d'un millénaire, il faut bien voir que les concubines aussi, ce sont les équivalents féminins des mamelouks. C'est-à-dire que les concubines et les jeunes femmes qui ont été abusées sexuellement, violentées sexuellement aussi, pour avoir des enfants avec des souverains libres, avec des puissants libres, avec des dignitaires libres, ce sont les équivalents. Elles n'acceptent pas des fonctions de gouvernement, ces concubines, elles n'acceptent pas des fonctions militaires, mais elles peuvent avoir une influence politique. Et une historienne américaine a très bien montré, Leslie Pierce, pour l'Empire ottoman, et pour le XVIe siècle, grande période de l'Empire ottoman, à quel point les concubines et ce qui correspondait aux mamelouks dans l'Empire ottoman avaient des fonctions similaires. C'est-à-dire qu'ils étaient en charge de reproduire la dynastie ottomane, de lui donner des descendants, et même au sein de ce qu'on appelle les harems, il y avait un contrôle sexuel, des activités sexuelles de ces femmes, aussi bien que des mamelouks, aussi bien donc de ces concubines, aussi bien que des mamelouks, qu'on appelait d'un autre terme en turc ottoman. Mais ce phénomène est tellement impressionnant, c'est-à-dire avec des gens qui sont plutôt de statut servile ou qui vont être affranchis, mais qui gouvernent des libres. Ça, c'est ce qu'on a appelé aussi le paradoxe mamelouk. Comment se fait-il que pendant des siècles, et surtout pour le sultanat mamelouk d'Égypte entre le XIIIe et le XVIe siècle, comment se fait-il que ces esclaves, ces affranchis aient eu des fonctions aussi importantes? Et ça était à l'origine de beaucoup de réflexions sur pourquoi avoir utilisé des mamelouks. Est-ce que c'était parce que les gouvernants ne faisaient pas confiance aux gens libres et préféraient s'appuyer sur des esclaves qu'ils contrôlaient? Est-ce que c'est parce que ces esclaves permettaient de contrôler les ressources économiques? Bon, je l'évoque dans l'ouvrage, je pense que ceux qui seront intéressés par ce paradoxe mamelouk pourront y revenir si ça les intéresse en profondeur.
Voilà, et votre ouvrage, c'est L'esclavage dans les mondes musulmans, Mohamed Waldi, et l'autre ouvrage que vous avez évoqué, c'est Un esclave entre deux empires, une histoire transimpériale du Maghreb, où nous croisons là aussi un mamelouk, avec cette histoire, et on le sent bien, une histoire complexe. Jamela Ouarou, il y a quelque chose ici qui, bien sûr, je le dis de manière très simple, peut interpeller ces esclaves devenus sultans au pouvoir, continuent et bien au contraire, même accentuent le fait qu'il y ait des esclaves partout, avec toute cette réflexion sur cette société où, du sommet du pouvoir jusqu'au plus bas, il y a des esclaves.
Oui, c'est une pratique qui continue, qui est bien ancrée dans ces sociétés, qui a une place à part entière. Moi, j'aimerais simplement préciser aussi, par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que justement, l'esclavage, ou en tout cas les esclaves, n'ont pas un statut figé. Être esclave, ce n'est pas avoir un statut figé. Parce que parfois, quand on se rend compte de l'ampleur de l'esclavage, de cette pratique, dans ces sociétés, on peut être assez effrayé. Et ce qui serait, somme toute, assez normal. Il faut simplement comprendre que un esclave... Bon, déjà, ne n'est pas forcément esclave, mais il ne meurt pas forcément esclave. Bien sûr qu'il y a des systèmes ensuite, après l'affranchissement, qui, bon, de redevance, entre guillemets, à l'égard de l'ancien maître qui existe, mais je pensais aux pratiques de cours qui sont aussi dans des choses banales, que l'on retrouve aussi dans des formes banales, c'est-à-dire que la femme esclave, la concubine par exemple, hein, qui intègre un foyer et qui obtient un enfant avec un maître libre, avec un homme libre, son enfant sera libre et elle obtient de facto un statut de omoualède, donc de femme esclave, mais de mère esclave, mais qui deviendra libre, ou qui est plus ou moins libre, mais qui obtient ce statut de omoualède qui lui accorde une liberté à la mort du maître. Donc, on a cet exemple dans les pratiques de cour, on a des grands califes qui sont eux-mêmes enfants de femmes esclaves, de jawari, mais on retrouve ça en fait dans la société de tous les jours, dans les foyers de tout le monde, et il arrive qu'on achète des esclaves au marché, effectivement, mais il arrive aussi que des esclaves soient affranchis, qu'ils soient revendus, qu'ils soient donnés, ou alors qu'ils fassent un contrat d'affranchissement avec leur maître et qu'ils travaillent pour racheter leur liberté. Et ça, c'est aussi une des grandes différences dans ces sociétés, c'est que les statuts liés à l'esclave sont différents, évoluent.
Oui, c'est cette évolution, et puis on l'a rappelé en début d'émission, cette sourate du Coran qui dit que l'expiation est possible si l'on affranchit un esclave, donc ça veut dire que l'affranchissement, c'est quelque chose qui est privilégié ici dans ce monde musulman.
Et l'affranchissement qui était souvent aussi acté sur le lit de mort de l'homme libre, de la femme libre, c'est-à-dire qu'on en revient aussi à des choses, bien sûr que le Coran est là, il encourage à l'affranchissement. On a tendance à l'oublier quand ça nous arrange, mais face à la mort, on se rappelle aussi de finalement ce qui nous anime plus ou moins, ou en tout cas la peur nous rattrape rapidement. Donc on essaie d'expier nos péchés, de se rattraper de la meilleure des manières.
Inès Mraddali, cette diversité de statuts d'esclaves que nous évoquons, ou de personnes, femmes, hommes, asservies, au moment de l'abolition au XIXe siècle en Tunisie, nous sommes... En 1846, faut le rappeler, hein, parce que c'est quand même 2 ans avant la décision de la France. Ça doit prendre en compte, hein, cette différence de statut. Je vous le dis autrement, c'est pas comme l'abolition de l'esclavage là où il y a des plantations, où d'un seul coup ce sont des groupes de personnes entiers. Là, c'est une histoire aussi au cas par cas. On le sent bien, hein. Il y a tant de statuts divers selon ceux qui vont travailler dans les champs, ceux qui sont domestiques dans une maison. C'est pris en compte, ça?
Vous voulez dire, est-ce qu'on prenait en compte la diversité des statuts pour...
Voilà, pour abolir, c'est pas une abolition aussi simple, et le mot je l'utilise avec prudence, qu'une abolition dans les plantations. On dit, tous les esclaves qui sont par dizaines, par centaines, sous la dépendance d'un maître, ici c'est des esclaves qui sont partout dans la société.
Je ne sais pas comment vous répondre.
Bon, en tout cas, il y a un décret d'abolition qui est pris et ça concerne tout le monde et tous les esclaves deviennent
libres. Non, le décret d'abolition de 1846, il concerne les esclaves noirs, précisément. Il n'est pas question des odalisques ou des mamelouks qui ont
été... Voilà, donc on prend en compte les statuts.
Mohamed me corrigera si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a pas eu d'abolition textuelle pour les mamelouks. Il n'y en a jamais eu, à ma connaissance. Il y a eu une abolition bien plus tôt, donc au tout début du 19e siècle, pour les esclaves chrétiens. Et par esclaves chrétiens, on ne prenait pas en compte les esclaves orientaux, donc les esclaves mamelouks. Et donc l'abolition de 1846, ça va concerner les esclaves noirs, dits soudanais. Et évidemment, ça va prendre en compte les femmes et les hommes. Et on verra que, suite à ce décret, ou à ce texte, ou à cette interdiction, entre guillemets, évidemment, les hommes vont plus facilement s'émanciper socialement, dans le sens où ils vont accéder plus facilement à des fonctions rémunérées, tandis que les femmes, qui pouvaient peut-être plus difficilement être libres socialement, faire leur vie en dehors de ces maisonnées, donc vont rester plus longtemps, on les retrouver plus longtemps dans les foyers des maîtres, du fait aussi de l'absence. Rien ne sera fait pour... Il n'y aura pas d'institution mise en place. Contrairement à ce qui se passera dans d'autres pays comme l'Égypte par exemple, il n'y aura pas d'institution proprement dite faite pour accueillir et recueillir ces femmes qui finalement n'ont ni famille, ni foyer, qui sont étrangères et qui sont aussi, pour beaucoup d'entre elles, arrivées très jeunes dans ce pays.
Mohamed Waldi, c'est vrai que, je reviens sur cette idée-là, on n'est pas esclave toute sa vie dans un monde musulman où on peut l'être, enfin... Tout est possible et on le voit bien à ce moment de l'abolition et c'est par plusieurs moments en réalité, c'est pas quelque chose d'évident d'un seul coup pour tous les esclaves qui deviendraient libres.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est très très important. Et je vais peut-être revenir, avant de répondre à votre question, sur une phrase que vous avez dite qui est intéressante. Les esclaves sont partout. Alors les esclaves ont des fonctions différentes, mais votre question, elle est importante parce qu'il faut dire aussi aux auditeurs que les sociétés musulmanes sont surtout des sociétés rurales, hein, et des sociétés où on vit à la campagne, on vit des ressources de la campagne. Et la majorité des gens qui travaillent dans ces sociétés agricoles sont plutôt des gens libres. Hein. Donc c'est des sociétés, si vous voulez, à esclaves. C'est pas des sociétés où l'esclavage produit la majorité des ressources. Ça, c'est très important. Et du coup, pour le 19e, on a des chiffres un peu plus précis. On peut dire que les esclaves représentent peut-être 3 à 5% de la population. Et qu'ils sont surtout concentrés dans les villes, dans les zones domestiques. Mais ils peuvent être aussi présents dans les zones d'oasis où la culture des palmiers dattiers est très, très difficile. Et ça sera le cas encore jusqu'au 19e et dans l'entre-deux-guerres. Hein. Donc, bien garder l'esprit, c'est que c'est une minorité d'un point de vue numérique et que la majorité des gens sont surtout des paysans libres. Ça, c'est très, très important. Alors, pour revenir maintenant à votre question, et c'est très juste comme la manière dont on l'avait posée, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction du statut, mais surtout en fonction des origines, l'abolition s'appliquera différemment au cours des siècles dans les mondes musulmans. Les premiers à connaître une abolition et une libération collective, comme l'a très bien dit Nesmrat Deli, ce sont les chrétiens, c'est-à-dire ces chrétiens qu'on enlevé en Méditerranée sur des embarcations européennes, qu'on enlevait sur les côtes italiennes ou sur les côtes nagas, quand on dit on, c'est-à-dire quand les corsaires maghrébins enlevés sur les côtes européennes, qu'ils raptaient aussi sur les navires, ces gens-là cessent d'être esclaves à partir de 1816, après le congrès de Vienne et une intervention militaire britannique. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, les gens du Caucase, eux aussi, vont voir leur esclavage petit à petit réduit, après les interventions britanniques surtout, et puis les interventions russes. C'est-à-dire qu'on pourra plus asservir des gens qui viennent de la Géorgie, donc, et puis aussi du Caucase de manière générale. Et les derniers, finalement, à avoir bénéficié, mais même de manière limitée, d'interdiction de marcher aux esclaves dans l'Empire ottoman, d'affranchissement collectif, bah, ce seront les esclaves noirs. Et ça dit bien, finalement, le statut subalterne des esclaves noirs parmi tous les autres esclaves. Ce sont ceux qui connaissent une abolition tardive, ce sont ceux qui ont des fonctions les plus subalternes parmi tous les esclaves d'origine différente.
Ah oui, parce que c'est important, hein, cette réflexion que nous avons, même pour comprendre notre monde aujourd'hui, hein, ces regards portés avec, et vous l'avez évoqué, Mohamed Waldi, l'idée que certains chrétiens pouvaient être capturés, c'est tout l'imaginaire des barbaresques qui nous conduit jusqu'à Cervantes.
Quand j'ai su qu'un esclave avait été battu durant 4 mois plutôt que d'écrire une lettre, j'ai tout de suite compris que c'était Don Miguel de Cervantes.
Mais comment se fait-il que vous...
Je suis le bey d'Alger. Le sultan m'a confié le gouvernement de cette province.
Vous êtes donc mon maître?
Le tien. Et celui de tout ce que tu vois ici.
Pourquoi m'avez-vous délivré? Par amitié?
En partie, oui. Mais tu représentes aussi un placement. Je viens de te racheter au Dalimani pour 300 ducats dans l'espoir que le roi d'Espagne paiera 500 ducats pour ta rançon.
Vous avez fait un mauvais placement. Ma famille est pauvre et Philippe ne connaît même pas mon existence.
Mais tu as été un héros à l'épante, et à ce que je vois, tu as fait un sacrifice. Est-ce ainsi que le courage est récompensé dans votre monde chrétien ?
Un extrait du film Les Aventures Extraordinaires de Cervantes, un film de Vincent Sherman en 1967. Ça, c'est vraiment tout un imaginaire qu'on retrouve dans Angélique, Marquise des Anges, face au sultan qu'on retrouve partout. Les barbares, c'était cette peur du 17e, 18e siècle. Dites-nous, Djamela Ouahou, c'est quoi cet imaginaire? Alors, on parle des barbaresques, on pourrait dire aussi avec les mamelouks, cette peur des mamelouks. Il y avait énormément de fantasmes sur des sociétés esclavagistes, extrêmement dures. C'est quelque chose aussi qui est encore prégnant dans les esprits et qu'il est nécessaire de déconstruire. Et là aussi, déconstruire, on peut simplement réfléchir autour du mot, ce serait faire l'histoire, écrire l'histoire de ces phénomènes-là et se départir de tout cet imaginaire.
Alors, je saurais...
Parce que quand on dit mamelouk, on a quand même tout de suite l'image de société.
J'ai déjà eu des conversations avec des personnes qui ne font pas du tout l'histoire et qui me disent, oui, les mamelouks, ces grands gaillards noirs. Non, alors, les mamelouks n'étaient pas noirs, puisqu'on parle de la question de la couleur. Ils étaient caucasiens, turcs, turcophones. Et c'est vrai que l'idée aussi... Bon, ils... Il y avait quand même l'idée qu'ils étaient particulièrement... c'était des hommes particulièrement forts. C'est pour ça qu'on allait les chercher là-bas et qu'ils étaient plutôt... En fait, si vous voulez, chaque population, chaque origine, les gens allaient puiser. Alors, ce que je voulais dire, pardon, mais avant de continuer, mais ça fait peut-être lien, capturer des esclaves, ce qu'on disait tout à l'heure, capturer des chrétiens, oui, mais en dehors de la demeure de l'islam, en dehors des pays musulmans. Il y avait ce rapport aussi aux frontières qui était particulier. Parce qu'il faut préciser aussi que les chrétiens, les juifs, donc ce qu'on appelle les protégés, bénéficiaient aussi d'accords de protection qui les mettaient plus ou moins sur le même pied d'égalité par rapport à l'asservissement. C'est-à-dire que en pays musulmans, un musulman ne peut pas devenir esclave. Il ne peut pas être réduit en esclavage. Et les chrétiens bénéficiaient de cette même protection, ce même avantage, entre guillemets, juridique. Juste pour préciser. Maintenant, les mamelouks, c'était un peu particulier. C'est vrai que ils étaient connus pour leur force, mais en même temps, ils étaient formés pour ça. Je ne sais pas si on a des a priori particuliers les concernant, mais leur maintien au pouvoir pendant 3 siècles a fonctionné. Près de 3 siècles a fonctionné. Et surtout, ils ont réussi à instaurer une forme de sécurité aussi militaire dans cet espace. On en revient encore à ça. Et je dirais même que, bon, a priori ou pas, là peut-être qu'on s'éloigne, mais je dirais même que ces espaces ont permis aussi un foisonnement intellectuel. Ça a été des espaces de refuge aussi, qui ont permis un foisonnement intellectuel, une émancipation artistique, culturelle assez importante. Et pour en revenir aux esclaves, il s'avère que dans les sources juridiques, on a beaucoup de cas d'esclaves qui fuient leur maître dans les territoires ennemis ou des territoires lointains et qui viennent chercher refuge ou demander refuge auprès des juristes parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils étaient en territoire ennemi et parce qu'ils cherchaient à demeurer esclaves, disait-il, hein, mais on sait qu'ils demandaient l'affranchissement, qu'ils cherchaient l'affranchissement, à demeurer esclaves dans de bonnes conditions.
Et donc, ça, c'est plutôt vers l'Égypte ?
Oui, on est en Égypte, on est carrément au Caire à l'époque mamelouk. Ouais, donc on a beaucoup de textes comme ça qui font état de ces témoignages d'esclaves en quête d'une forme de liberté dans cet espace finalement qui a pu se développer aussi et qui a pu être un âge d'or entre guillemets à l'islam.
Oui, avec vraiment la complexité mais qu'il faut mettre au centre de cette discussion.
Il y a une vraie complexité, bien sûr, il y a une vraie complexité. Maintenant, les mamelouks ont permis aussi certaines choses dans leur obtention du pouvoir, en tout cas en accédant au pouvoir, ils ont permis aussi une certaine stabilité, somme toute relative, et un certain foisonnement intellectuel qui était très prisé aussi par les esclaves.
Voilà, qui viennent même trouver refuge ici. Mohamed Waldi, sur cet imaginaire, on évoquait les barbaresques, les mamelouks, et on vient de voir que, au regard de l'historienne, quand les faits sont posés, on doit se départir de cet imaginaire.
Oui, oui, moi je profite vraiment de la question sur le barbaresque, elle est très très intéressante en fait. C'est-à-dire, la peur de l'islam, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamophobie, y compris la réaction complètement stupide de la présidente de la région d'Île-de-France pour couper les subventions à Sciences Po, sous peur d'un islamo-gauchisme, ça, cette peur, ces fantasmes, alors ils sont nés de la situation coloniale, de la peur, par exemple, en Algérie, d'être envahi par la majorité musulmane, et puis surtout, il y a tout ce passé, effectivement, de l'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne. Il faut bien savoir que l'Europe moderne, elle nourrit cette peur de ce qu'on appelle le Turc. Et le Turc, c'est celui qui peut aussi vous ravir, vous enlever et vous asservir. Et vous avez bien cité Angélique, il y a eu le film sur Cervantes. Mais à l'époque, déjà, vous avez des mémoires d'anciens esclaves au Maghreb ou dans les mondes musulmans qui sont ensuite imprimés et vendus en Europe avec parfois une vision fidèle de ce qui se passait dans la société, parfois beaucoup de fantasmes. Ces mémoires d'esclaves imprimés, ils sont aussi illustrés par des images aussi qui incarnent la violence. Vous avez aussi des récits oraux d'anciens captifs rachetés du Maghreb et revenant en Europe et qui racontent ça à leur famille, au village. Donc l'Europe a vécu dans ces moments-là d'esclavage et a nourri une peur aussi de ce monde musulman, y compris par des processions, par exemple quand les esclaves chrétiens revenaient des zones musulmanes et quand ils avaient été libérés, ils devaient marcher dans des processions et cela montrait aussi à la fois la capacité à libérer ses esclaves et de l'autre, la peur, hein, d'une possibilité d'être à nouveau soi-même asservi quand on circulait en Méditerranée. Mais je tiens à dire quand même que c'est un phénomène de réciprocité. C'est vrai que les esclaves chrétiens ont été asservis dans les mondes musulmans par la Méditerranée, mais il faut bien voir que les musulmans, qu'ils soient africains du Nord, africains de l'Ouest, proches orientaux, étaient eux aussi asservis en Europe jusqu'aux années 1820. Donc c'est un phénomène qu'il faut voir des deux côtés. Et je dis simplement un exemple, un tout petit exemple, un des châteaux les plus importants, des palais les plus importants du sud de l'Italie, construit à l'époque des Bourbons d'Italie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, eh bien, le château de Caserte, près de Naples, il a été construit notamment par des esclaves maghrébins, 300 esclaves maghrébins dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ça, c'est très, très important aussi. Donc, une peur des musulmans qui naît de cette longue histoire d'esclavage. Mais il ne faut pas oublier que le phénomène était des deux côtés, qu'il était réciproque et que les historiens étudient aussi la présence des esclaves musulmans en Europe.
Et voilà, et dans le cours de l'histoire, sur France Culture, nous allons consacrer une émission à cet esclavage dans l'Europe médiévale, au sens où nous parlerons du servage, mais le servage, ce n'est pas l'esclavage, et c'est important de le rappeler. Mohamed Waldi, avec aussi dans ses fantasmes les barbaresques, vous l'avez clairement expliqué, on pourrait rajouter ce fantasme d'un esclavage particulier, celui du harem. Alors là, un regard porté par l'Occident est globalement à la fois fascinant et malsain, et une réalité de ce qui se passe avec cet esclavage d'un type particulier. Mohamed Waldi.
Oui, je pensais que vous alliez passer un extrait sur les harems. Alors non, alors l'image du harem, c'est la sexualité débridée, c'est les tableaux de la croix, évidemment. En fait, les historiens ont montré que c'était pas aussi drôle que ça, bien au contraire, en fait. Donc j'y reviens, l'un des ouvrages qui mériterait d'être traduit en français, c'était l'ouvrage de Leslie Pierce sur le harem des Ottomans à l'époque de l'âge d'or de l'Empire ottoman au XVIe, XVIIe siècle. Elle montre qu'il n'y a pas du tout ce type de jouissance, des corps contraires. En fait, le but dans les harems, c'est de contrôler la sexualité, en fait. De contrôler la sexualité, c'est-à-dire les plus âgés, les mères des sultans, les eunuques notamment aussi, étaient chargés de contrôler la sexualité des jeunes femmes pour assurer la reproduction des lignages, c'est-à-dire de la succession des sultans ottomans. De la même manière, les jeunes hommes, leur sexualité était contrôlée. Donc il y a aussi des normes islamiques qui s'appliquaient au harem. Je suis désolé de décevoir ceux qui avaient des fantasmes sur les harems. Ils peuvent toujours les avoir dans leur nuit chaude. Mais en fait, non, c'était l'enjeu était un enjeu politique. C'était pas un enjeu de plaisir. Et puis, c'était des souverains musulmans qui pouvait s'adonner à certains excès, notamment l'alcool, mais qui par ailleurs avait tout intérêt à montrer qu'ils se comportaient comme des bons musulmans.
Un monde de contrôle, et c'est ça qui explique l'esclavage dans ces mondes musulmans, le contrôle jusqu'à la volonté de contrôler l'abolition.
Nous avons acquis la certitude que la plupart des habitants de la province de Tunis abusent des droits de propriété qu'ils ont sur les Noirs et les maltraitent. Vous n'ignorez pas cependant que la lumière de la religion a pénétré dans le pays des Noirs depuis longtemps. Que notre loi sacrée affranchit, de droit, l'esclave maltraité par son maître. Et que la législation a une tendance marquée vers l'extension de la liberté. En conséquence, nous avons décidé, dans l'intérêt actuel des esclaves et l'intérêt futur des maîtres, que des notaires pourront délivrer à tout esclave qui le demandera des lettres d'affranchissement qui nous seront présentées pour être revêtues de notre sceau. Car si l'esclavage est licite, les conséquences qu'il entraîne sont contraires à la religion et il importe de les éviter. D'autant plus qu'il s'attache à cette mesure un intérêt politique considérable. Dieu nous guide vers la voie la meilleure et récompense les croyants qui agissent dans le sens du bien.
Une lettre envoyée le 23 janvier 1846 par le bey de Tunis au gouverneur de province avec cette idée, Inès Adali, de contrôler là encore l'esclavage, mais au sens cesser l'esclavage des Noirs, mais avec des arguments liés à la religion. Et c'est passionnant hein, d'avoir cette réflexion, de dire que l'esclavage peut s'appuyer sur des textes religieux pour le justifier, mais de voir aussi que ces mêmes textes religieux peuvent être utilisés pour abolir l'esclavage.
Absolument. Pour le cas tunisien, il faut savoir que dès très tôt, en fait, on va relever que les esclaves qui arrivent dès le XVIIe siècle, je pense notamment à ce qu'a écrit Ahmed Baba de Tambouctou, grand héritier du musulman, il a déjà souligné dès cette époque-là qu'il y avait une contrevenance aux règles de l'islam par les traitants et par les possesseurs d'esclaves, puisque beaucoup des esclaves arrivaient de contrées islamisées. Les esclaves qui arrivaient en Tunisie donc provenaient principalement des régions du Bornou, du Kano, du Castina et du Sandraï, qui étaient donc déjà des régions islamisées. Et c'est ce qui explique, entre autres, que dans ce texte que vous venez de passer, donc il est fait référence à cette contrevenance aux règles de l'islam. Ça, c'est un point important qui est évoqué dans ce texte pour justifier cette interdiction. Un autre point très important, qui est central, à mon sens, dans ce texte, c'est l'évocation de la maltraitance. Comme étant justement une autre contrevenance à la religion musulmane et qui devient inacceptable de tolérer à ce stade. Alors ce texte donc qui a été écrit et déclaré en 1846, le 23 janvier 1846, et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette interdiction a mis du temps à se faire, à se déclarer ouvertement, même si le bey était notamment considéré par les autorités européennes dès 1841 comme ayant aboli l'esclavage, puisqu'il a interdit l'exportation des esclaves et il a fermé les marchés de la régence de Tunis. Et justement, cette question de la maltraitance, elle est en quelque sorte liée à cet événement, à cette fermeture des marchés des esclaves, parce que cette fermeture des marchés des esclaves va paradoxalement provoquer une situation moins confortable, d'une certaine façon, pour les esclaves, qui ne vont plus pouvoir se remettre en vente pour échapper à d'éventuelles maltraitances de leur maître. Et donc, il va y avoir visiblement une sorte d'augmentation des cas de maltraitance. Et c'est ce qui va faire que ce texte de 1846 donc, va paraître, enfin, malgré les réticences du préalable du bey, et qu'il va souligner donc, ce qui devenait, encore une fois, intolérable, et qui va faire aussi que les juristes et les autorités judiciaires et religieuses locales vont accepter ce texte.
Avec, en écho à ce que vous venez de dire, pour terminer et très rapidement, Jamela Ouahou, il y a malgré tout cette idée sur le temps long que si l'esclavage a été aboli, les maltraitances, tout ce qu'on évoque, tout ça a été toujours condamné en soi, ne serait-ce que d'un point de vue religieux.
Alors, techniquement, d'un point de vue juridique, la maltraitance est une cause d'affranchissement. C'est une des raisons pour lesquelles, donc on dit que les esclaves ont obtenu des droits avec l'avènement de l'islam, c'est une des raisons pour lesquelles les esclaves allaient voir des juristes, des jurisconsultes, des penseurs musulmans, leur disant « j'ai été maltraité, que faire ?» Et c'est là qu'ils attendaient justement l'annonce de leur affranchissement. Et ce n'était qu'une étape avant d'arriver chez le notaire, car effectivement, tout prenait forme chez le notaire. Mais très techniquement, depuis le départ, la maltraitance est une cause d'affranchissement.
Voilà, et c'est pas du tout dans l'idée de revendiquer l'esclavage comme si c'était bien.
Non, bien
c'est
sûr.
Vraiment un propos d'historienne, d'historien.
Et faire très attention à ça, bien
sûr. Sur ce monde-là, merci vivement à toutes les deux d'avoir été avec nous. Jamela Ouahou, Inès Mrad Dali, d'avoir été en plateau. Et merci depuis Tunis à Mohamed Waldi. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, L'esclavage dans les mondes musulmans, des premières traites au traumatisme. C'est passionnant. Merci vivement à tous les trois. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Merci.
Pourquoi défendre l'autonomie de l'art dramatique ? L'importance du théâtre, à l'âge classique, tenait surtout au fait que le spectacle était autant dans la salle que sur la scène. Il participait d'une culture des apparences qui prolongeait le cérémonial de cour. On venait au spectacle autant pour se donner à voir que pour voir. L'architecture des salles reproduisait la hiérarchie sociale dominante. Avant la réforme de 1759, les grands seigneurs prenaient place sur des sièges disposés sur la scène. Les femmes, en grande tenue d'apparat, occupaient les premières loges et les bourgeois les secondes loges. Le parterre réunissait un public hétérogène de petits bourgeois, d'ouvriers, d'étudiants et d'artisans. Cette première société du spectacle était également caractérisée par la porosité entre la scène et la salle. Les comédiens qui maîtrisaient les techniques de l'orateur ou du batteleur devaient réussir à capter les émotions des spectateurs. Mais réciproquement, ces derniers pouvaient influer sur le déroulement de la représentation en manifestant bruyamment leur engouement ou leur déception. Le public du parterre apostrophait et invectivait fréquemment les comédiens, n'hésitant pas à envahir la scène à l'occasion d'émeutes que les forces de l'ordre réprimaient sévèrement. Comme les interventions des spectateurs jouaient un rôle essentiel dans l'appréciation du talent des auteurs et des comédiens, ces derniers s'emparèrent de ce type de ressources pour valoriser leurs performances. Les auteurs et les troupes distribuèrent des billets de faveur, offrirent des rétributions en argent ou en nature à de petits groupes de spectateurs chargés d'applaudir ou de siffler. L'apparition de la claque et du sifflet devinrent ainsi des formes codifiées pour décider du succès ou de l'échec d'une pièce. Ce qu'on a appelé la guerre des sifflets fut donc une illustration bruyante de la concurrence qui opposait les artistes entre eux. Mais le rôle actif que jouaient les spectateurs du parterre était aussi l'expression d'une parole plutôt populaire, à une époque où le théâtre était une dimension importante de l'espace public. Dénoncée par la presse périodique, la claque fut également désavouée par les artistes qui en faisaient les frais. Dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, journalistes, comédiens et auteurs conjuguèrent leurs efforts pour faire émerger une nouvelle conception du théâtre. Les revendications professionnelles relevant de l'exercice du métier de comédien furent alors justifiées par des raisons d'ordre esthétique. Cette étape essentielle dans la lutte pour l'autonomisation de l'art dramatique aboutit à discréditer l'espace d'expression que le public populaire avait fraîchement conquis en provoquant du tumulte dans les salles de spectacle. Toute une série d'arguments furent alors avancés pour faire de la scène le lieu exclusif où devait se focaliser l'attention au détriment des manifestations spontanées du jugement populaire. C'est ainsi qu'ont été posées, à la fin du XVIIIe siècle, les bases de ce qui est devenu un paradoxe dans la seconde moitié du XXe siècle, la neutralisation, voire l'éviction, des réactions des spectateurs au sein de nos théâtres contemporains.
Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, préparée par Taïsia Froidur. Et merci Taïsia pour la lecture, avec aujourd'hui à la technique Sébastien Royer. Émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copet et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Se préparer au grand oral du bac, prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre, par des livres ou par des enseignements, ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.